Il y a toute la feuille avec les différentes dates, le nom des anciens qui donnent les cours et les chapitres à lire, le nombre de pages aussi à suivre. Et je dois commencer en vous demandant pardon. Parce que la semaine dernière et cette semaine encore, malheureusement, dans vos notes, dans les notes que je vous ai données, toutes les pages dans les citations de John Piper sont mauvaises. Donc les citations, je vous rassure, sont bonnes, mais toutes les pages sont mauvaises. Si vous cherchez dans le livre, vous ne trouverez pas. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte cette semaine, après avoir envoyé mes notes de cours, que je lis le livre sur l'iPad. Et si je zoome pour voir le texte un peu plus gros, eh ben ça me change le nombre de les pages en fait. Ça me fait les pages de l'iPad. Donc en fait, j'ai pris les noms, le numéro des pages, mais les pages de mon iPad. Donc c'est pas les mêmes que du livre. Donc je vous demande vraiment pardon pour ça. Mais je vous assure, les citations sont bonnes et elles sont bien tirées du livre de Piper. Voilà, pardon pour ça. Et aujourd'hui, j'ai un grand défi. Un grand défi. Pourquoi? Parce qu'on arrive à notre quatrième cours et c'est toujours à ce moment-là que soit on abandonne, soit on ne suit plus le cours, soit on trouve que c'est long, barbant et donc on se décourage un peu. Alors j'espère que ce cours aujourd'hui va vous aider et va vous encourager à persévérer dans la lecture du livre, mais aussi à suivre les cours, que ce soit ici ou en ligne ou autre. Mais voilà, j'espère que ce cours va être aussi dynamique et va vous aider à voir plus la providence de Dieu à travers toute l'histoire de l'humanité. Ça vous va si on va dans la prière? Seigneur notre Dieu, on te prie vraiment de nous parler ce matin. Seigneur, le but de ce cours, c'est de mieux comprendre ta providence, de mieux comprendre qui tu es, de mieux comprendre quel est le but de notre passage sur terre. Aide-nous à voir et à saisir les beautés de l'Évangile ce matin. Et je te prie que tu puisses parler à nos cœurs, que ça puisse être un puissant encouragement à persévérer, à creuser davantage les Écritures, à comprendre ce que tu veux nous dire, et qu'on puisse essayer de l'appliquer pour nos vies et le vivre quotidiennement dans nos familles, dans le travail, dans toutes les situations qui touchent notre vie. Seigneur, sois glorifié, parle-nous ce matin, aide-moi à être clair dans les propos et que on puisse rester persévérant, Seigneur, dans l'étude de la providence à travers toute l'histoire de l'humanité. En ton nom. Amen. Ok, rappel de ce qu'on a vu la semaine dernière. La semaine dernière, c'était moi. Et on a vu que le but de la providence de Dieu dans l'Ancien Testament, c'est de se faire connaître son nom. C'est de faire connaître non seulement son nom au peuple d'Israël, mais aussi au monde entier. Et tout ça a un but, de pouvoir se glorifier, de pouvoir être glorifié. Mais non seulement être glorifié, mais aussi et surtout adoré. Et que le peuple de Dieu puisse tirer toute sa joie en lui. Vous vous rappelez de ça? Presque. Vous vous rappelez de ça? Ouais, ok, cool. Dans sa providence aussi, Dieu nous a permis de connaître dans l'Ancien Testament quelle est la place de la foi. Et ça, on l'avait vu avec notamment Abraham. Vous vous souvenez? Oui, c'est bon. Donc, ça nous permet de connaître la place de la foi, mais aussi l'essence même du péché, de qu'est-ce que c'est le péché et à quel point ça nous touche, nous tous, êtres humains. Et ces deux choses, la foi et le péché, c'est quelque chose qui n'ont pas changé aujourd'hui. Et nous aussi, on doit reconnaître notre péché et on doit placer notre foi en Jésus pour être sauvé. Ça, c'est le message de l'Ancien Testament. Et aujourd'hui, on va voir le dernier point de la semaine passée. Vous vous souvenez, la semaine passée, j'avais 6 points et on n'en a fait que 5, manque de temps. Et donc, j'aimerais voir le dernier point. Et en fait, ça va être un dernier point qui va nous permettre aussi d'introduire le thème qu'on va voir aujourd'hui. Donc, je vais essayer de le survoler un peu plus rapidement. Donc, le but de la providence de Dieu dans l'Ancien Testament, vous vous souvenez, tous mes points commençaient par ça. Le but de la providence de Dieu dans l'Ancien Testament est de connaître son plan de rédemption. OK? Et ça, on le voit notamment avec l'histoire d'Israël quand il demande un roi. Le peuple d'Israël réclame qu'un roi règne sur eux à la place de Dieu, à la place de l'Éternel, celui qui doit être le roi légitime, qui est le roi légitime du peuple d'Israël. Et ça, c'est, on le voit dans 1 Samuel chapitre 12 notamment. Et je vous fais la lecture de quelques versets dans 1 Samuel chapitre 12. Le peuple dit à Samuel, « Non, mais un roi règnera sur nous. Et cependant, l'Éternel, votre Dieu, était votre roi. Sachez alors et voyez combien vous avez eu tort aux yeux de l'Éternel de demander pour vous un roi. » Ce que Samuel est en train de dire à ce moment-là, c'est que l'attitude même, le fond même du cœur du peuple d'Israël est de réclamer un roi humain à la place d'un roi divin. Et on l'avait vu avec la loi, dans ce que la providence de Dieu, quand il révèle la loi, c'est que l'homme veut être son propre roi, veut être ou réclame un roi humain à la place d'un roi divin. Et ça, pour Dieu, c'est péché. Et on l'avait vu notamment avec les deux premiers commandements de Dieu. Et donc, c'est quelque chose de grave. Et on pourrait se dire, mais Dieu va juger littéralement son peuple, comme il le fait dans les juges, et puis il passe à un autre moment. Sauf que Samuel dit au peuple, « N'ayez point de crainte. L'Éternel n'abandonnera point son peuple à cause de son grand nom, car l'Éternel a résolu de faire de vous son peuple. » Et ça, c'est absolument magnifique. C'est absolument magnifique de voir que Dieu, dans sa providence, va laisser Israël commettre le mal pour sa gloire. Et on va le voir par la suite. Et Dieu est déjà là en train de faire une promesse à son peuple. « Je vous abandonnerai pas. » Et ça, c'est magnifique. Et on le voit notamment avec l'arrivée de Jésus. Dieu, dans sa providence, permet le péché d'Israël en réclamant un roi pour atteindre, en fait, son propre but. Car sans la royauté dans l'Ancien Testament, l'écho de la royauté de Jésus aurait été moindre. Vous êtes d'accord avec moi ? Toutes les dimensions royales de l'incarnation du Fils de Dieu en tant que Messie étaient déjà en cours de réalisation au moment où Dieu ordonne l'établissement de la royauté en Israël. C'est le point d'orgue de la royauté dans l'Ancien Testament qui s'accomplit dans Jean 19, verset 19, lorsque Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçue, « Jésus de Nazareth, roi des Juifs ». Donc l'objectif final de la Providence dans l'établissement d'une monarchie en Israël ne sera pas atteint avant que le peuple racheté par le roi Jésus voit en elle sa perfection et celle de Jésus. Et Jésus va faire une prière magnifique dans Jean 17, 27, 24. « Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire. » Juste incroyable. Mais ça ne s'arrête pas là. La providence de Dieu dans la royauté ne s'arrête pas là, mes amis. Le dessein ultime pour la monarchie d'Israël sera enfin réalisé quand Jésus siégera sur son trône d'adorateurs provenant de toutes les nations. Et ça, c'est Apocalypse 7 qui nous révèle ça. Celui qui est assis sur le trône, c'est-à-dire le roi. Celui qui est assis sur le trône, c'est le roi. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Le soleil ni aucune chaleur ne frapperont plus. Car l'agneau qui est au milieu du trône, l'agneau, c'est Jésus, qui siège sur le trône, qui est le roi absolu, les pètera, les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Donc, la providence de Dieu dans la royauté était déjà un but pour Dieu dans toute l'histoire de la Bible et qui va se réaliser le jour où Jésus-Christ régnera sur son trône et qu'on sera tous rachetés, que des hommes de toute nation, de tout peuple, de toute langue béniront son saint nom pour l'éternité. N'est-ce pas magnifique ? Honnêtement, vous faire une petite confidence, j'ai appris ça en 2020. C'est assez récent. Et quand j'ai compris l'impact de la royauté dans la Bible, à travers la Bible, je suis tombé à genoux, littéralement. Et j'ai juste dit, Seigneur, mais je veux t'adorer, parce que c'est magnifique de voir ça. Et je me suis dit, en préparant ce cours, mais en fait, je vais donner ce cours à des Québécois, des Canadiens, qui ont un roi. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, ce n'est pas le sujet. Mais il est juste l'image d'une illustration, enfin d'une, c'est juste une illustration d'une réalité bien plus grande et bien plus glorieuse. Et notre roi, Jésus, lui, sera un bon roi et est un bon roi qu'on va pouvoir adorer, à qui on va pouvoir rendre toute la gloire pour l'éternité. Je trouve ça juste absolument magnifique. J'espère que vous voyez ça et je veux vraiment vous encourager à méditer justement sur la royauté dans la Bible et de voir à quel point les prophéties, l'accomplissement de Jésus en tant que roi et seigneur de nos vies est juste absolument merveilleux. Ok, donc ce matin, on va voir le but de la providence de Dieu dans la conception et la mise en œuvre justement de la nouvelle alliance accomplie par Jésus. Ok, vous voyez l'introduction, comment ça amène bien ce point ici. C'est pas moi qui ai fait le découpage, c'est John Piper. Je trouve qu'il fait vraiment ça bien. Ok, juste pour information, à mon avis, tout le monde dans cette salle connaît ça. La Bible est divisée en deux parties, n'est-ce pas ? Ancien Testament, Nouveau Testament. Et le lien, le pont entre l'Ancien et le Nouveau Testament est construit essentiellement sur la promesse que un jour, Dieu promulguerait une nouvelle alliance. Donc on pourrait appeler l'Ancien Testament l'Ancienne Alliance et le Nouveau Testament une Nouvelle Alliance. L'instauration de cette alliance se fait à travers Jésus-Christ. C'est lui le point de départ de cette Nouvelle Alliance qui s'avère être le chemin englobant le but ultime de la providence de Dieu, à savoir être connu et adoré pour qui il est. Le plan que je vous propose ce matin, on va voir premièrement les promesses particulières de cette nouvelle alliance, puis après on va voir l'acte fondateur de Christ, et puis enfin l'entrée du péché et de voir comment cela amène à la gloire de l'Évangile, à la gloire de sa grâce. Ok, premier point, les promesses particulières de cette nouvelle alliance. On va voir que je me base particulièrement sur le Jérémie 31, versets 31 à 34, et je vous propose de les lire. Donc voilà, je fais la lecture de Jérémie 31, versets 31 à 34. « Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les assis par ma main, pour les faire sortir du pays d'Égypte, l'alliance qu'ils ont violée, quoique je sois leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël, après ces jours-là, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus à son prochain, ni celui-là à son frère, en disant « Connaissez l'Éternel !» Car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. Car je pardonnerai leur iniquité, je ne me souviendrai plus de leur péché. » Donc on voit que l'ancienne alliance contraste avec la nouvelle alliance, de la promesse de la nouvelle alliance. Et les nouveautés de cette nouvelle alliance consistent justement dans le fait que Dieu pardonnera les péchés de ceux qui appartiennent à cette alliance. Jérémie 31, verset 34. Dieu mettra sa loi en eux et l'écrira sur leur cœur, ce qui marque une nouvelle disposition de cœur. Verset 33. Dieu sera leur Dieu, tous le reconnaîtront depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Et ça, verset 34. Le peuple de Dieu ne sera plus jamais séparé de son Dieu. Voyez les belles promesses qu'il y a à chaque fois. Et ça, je les ai citées dans cet ordre parce que, en fait, c'est dans cet ordre que Dieu opère son but ultime à travers Jésus. Donc le but de la providence de Dieu reste le même dans tout ce que nous avons vu jusque-là. Dieu ne change pas. Ce n'est pas parce que Dieu est en train d'établir une nouvelle alliance que Jésus ou Dieu est en train de faire reset sur tout son plan, qu'il est en train de passer au plan B. Non, il n'est pas en train de faire ça. Son plan s'accomplit depuis le début avec Genèse 1:1. Et c'est ce qu'on a vu la dernière fois avec la providence de Dieu à travers l'Ancien Testament, à voir comment ça s'accomplit dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance. Le but de Dieu, la providence de Dieu, c'est Dieu veut être connu. Dieu veut que l'on prenne plaisir en lui. Il veut être adoré pour qui il est vraiment. C'est pour ça qu'il dit « Vous saurez que je suis l'Éternel ». Mais à présent, dans cette nouvelle alliance, ce but primordial sera atteint à travers une nouvelle alliance annoncée ici par le prophète Jérémie qui va s'accomplir en Jésus. Et dans l'Ancien Testament, nous avons plein de promesses de ce que Dieu veut, de ce que Dieu va accomplir dans cette nouvelle alliance. Et tout ça a pour but la joie de son peuple. Okay, vous vous souvenez, providence de Dieu, c'est vraiment ça, c'est de vraiment pouvoir trouver, qu'on puisse trouver la joie en Dieu. Une joie, une pleine joie. Et pour ça, plusieurs promesses, plusieurs passages, dont Ézéchiel 36, Ésaïe 63, Exode 20, où il y a vraiment cette notion de trouver la joie. Dans Ézéchiel 36, il y a vraiment cette idée de changer le cœur de pierre en cœur de chair. C'est passer d'un cœur de pierre qui ne ressent absolument rien, qui n'est pas précieux, qui n'est pas agréable, en un cœur de chair. Un cœur qui vit, qui perçoit, qui est sensible à la gloire de Dieu, à la beauté, à toute la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus et de l'Éternel, entre autres dans l'Ancien Testament. Mais il y a aussi ce don de l'Esprit qui permet d'estimer et valoriser le nom de l'Éternel à sa juste valeur. Et il y a cette promesse que son peuple va lui obéir. Et Dieu met en nous un cœur qui est déjà tout prêt à lui obéir, à l'aimer, à s'attacher à lui de tout notre cœur. Et comme on l'a vu la dernière fois, il met sa loi dans notre cœur pour qu'on puisse trouver pleinement en lui une source de joie, des trésors, des délices à faire, à accomplir par-dessus tout. Donc le but de la Nouvelle Alliance est d'accomplir ce qu'il recherche depuis le début de la création et dans la rédemption, à savoir communiquer sa gloire, de sorte qu'elle soit exaltée par tous. Ok, maintenant, quelque chose qui moi m'a marqué et que je trouve comme promesse qui est vraiment, vraiment, vraiment belle, c'est cette promesse qu'on va persévérer dans cette alliance. Jérémie 32 dit « Je leur donnerai un même cœur et une même voix, afin qu'ils me craignent toujours. Pour leur bonheur et celui de leurs enfants après eux, je traiterai avec eux une alliance éternelle. Et je ne me détournerai plus d'eux. Je leur ferai du bien. Et je mettrai ma crainte dans leur cœur, afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi. Je prendrai plaisir à leur faire du bien. Et je les planterai véritablement dans ce pays. De tout mon cœur, et de toute mon âme. » Comment est-ce que Dieu va nous donner cette persévérance? Comment il fait ça? Plusieurs points dans ce passage. Déjà, il traitera une alliance éternelle avec eux, avec nous. C'est-à-dire que Dieu est à l'origine de cette alliance, ce qui garantit déjà le fait qu'elle va s'accomplir, n'est-ce pas? Mais ça va plus loin, sa garantie va encore plus loin. Il s'engage à ne jamais cesser de faire du bien. Ses bénédictions seront bonnes et resteront bonnes parce que Dieu le promet. Encore une fois, ça va plus loin. C'est lui qui va mettre son alliance dans notre cœur afin que l'on ne s'éloigne pas de lui. En quelque sorte, C'est Dieu qui est en train de s'engager pour nous. En fait, Dieu dit, je prends la part de mon contrat, je vous promets que je vais la respecter, mais en plus de ça, je prends la part de votre contrat et je vous promets que je vais la respecter. Et ça, c'est absolument merveilleux. Et le clou du spectacle, c'est qu'il s'engage à prendre plaisir dans cette alliance. Je prendrai plaisir à leur faire du bien de tout mon cœur et de toute mon âme. Dieu n'offre pas à contre-cœur les bénédictions éternelles de la nouvelle alliance. Non, en fait, il est en train de réaliser pleinement ce qu'il aime. Dieu veut nous voir l'adorer pour l'éternité. John Piper dit dans son livre, le but ultime de la nouvelle alliance, c'est la joie débordante de Dieu lui-même à travers la joie qu'éprouve son peuple dans la gloire de son nom. Je trouve ça tellement, tellement bien dit. Ok, ça va jusque-là ? Deuxième point, l'acte fondateur de Christ dans la nouvelle alliance. Piper, dans son livre, va dire régulièrement que l'incarnation du Fils de Dieu jusqu'au temps éternel de la nouvelle terre peut être décrite comme la promulgation de la nouvelle alliance. Ok, promulgation, qu'est-ce que ça veut dire ? D'après le dictionnaire Larousse, c'est l'acte par lequel le chef de l'État constate qu'une loi a récemment été adoptée par le Parlement et la rend donc applicable. Autrement dit, l'incarnation du Fils de Dieu jusqu'au temps éternel de la Nouvelle Terre peut être décrite comme le fait que Dieu reconnaît et approuve le sacrifice de son Fils comme le moyen de salut efficace pour les hommes et que cela constitue le fondement de la nouvelle alliance en attendant l'établissement final et de son règne pour l'éternité. Je trouve ça vraiment important de comprendre. Dieu est déjà en train, a déjà dit que son salut par son Fils est efficace aujourd'hui. L'accomplissement final de ça aura lieu dans l'éternité, quand on sera pour le louer, quand on sera à son image, qu'on sera parfaitement saint comme lui est saint. Donc Jésus est le fondement de cette nouvelle alliance. Et la nuit précédant sa crucifixion, Jésus dit que son sang, c'est-à-dire son sang qui est sur le point d'être répandu, à savoir à la mort qu'il allait subir le lendemain, est l'étape fondatrice de cette promulgation de la nouvelle alliance. Il dit, après avoir mangé, quand il prend la coupe, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. » Ça, c'est Luc chapitre 22, verset 20. Donc, le « en mon sang », on pourrait le dire « par mon sang », signifie que par son sang, les péchés de son peuple sont couverts ou effacés. Et ça, c'est on peut le voir dans Romains et dans Colossiens, Romains 4 et Colossiens 2. La promesse de la nouvelle alliance est accomplie en Jésus. Quand le prophète Jérémie dit « Je pardonnerai leur iniquité, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Le sang que Jésus a versé est le fondement de cette promesse de pardon. Encore une fois, on voit la providence de Dieu à travers tout l'Ancien Testament et de toute la Bible, quand on voit que, et qu'on étudie le modèle établi par Dieu dans l'Ancienne Alliance, qui est que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Or, il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. Parce que dans l'Ancien Testament, Dieu avait instauré les sacrifices. Et c'est Hébreu qui nous dit tout ça. Et tous les sacrifices d'animaux ont ouvert en fait la voie vers le meilleur et l'ultime sacrifice en Jésus. Vous voyez comment dans l'Ancien Testament, dans la notion des sacrifices, aussi Dieu, dans sa providence, a mis et instauré des sacrifices pour révéler un sacrifice qui va être bien meilleur, bien plus grand, à savoir celui de Jésus. Encore une fois, ça c'est absolument magnifique. En effet, toute leur efficacité des sacrifices, des agneaux, des boucs et tout ça, venait de l'expiation en Christ, qui, cette expiation s'est avérée opérante, même pour les croyants qui ont vécu avant Christ. Pour ça, je vous réfère à Romains chapitre 3, dans les versets 25 et 26. À l'inverse des sacrificateurs antérieurs qui ont ouvert et offert les sacrifices d'animaux à répétition pour leurs propres péchés et ceux du peuple, Jésus, lui, était sans péché. Par conséquent, il a apparu pour une fois pour effacer le péché par son sacrifice. Ça, c'est Hébreux 9 qui nous dit ça. En cela, Christ est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Honnêtement, l'Épître aux Hébreux, si vous voulez comprendre cette notion-là de sacrifice, l'Épître aux Hébreux détaille ça à merveille. Lisez ça, méditez sur quels sont les sacrifices et à quel point, dans la providence de Dieu, les sacrifices montrent un sacrifice bien meilleur qui est celui de Jésus. Oui, Jésus est bien le fondement de cette nouvelle alliance. Il en est la base. Elle est rendue effective grâce à son sacrifice. Et Jésus est le propre responsable de sa promulgation de la gloire de Dieu. Mais Jésus est non seulement le fondement, mais il est aussi le but. Dans sa mort et sa résurrection, il a non seulement pourvu au fondement de la nouvelle alliance promise, mais il est aussi également devenu le but. Jésus est à la fois le fondement de notre salut et la gloire que nous avons été appelés à voir, à savourer et même à partager. Il a été le prix payé pour notre libération, mais aussi le prix à gagner, dans lequel nous sommes appelés à prendre plaisir. Il nous a rachetés de l'enfer et nous a récompensés par le don de lui-même. Sa réalité surprenante et incompréhensible est que nous expérimentons Dieu en tant que Dieu, précisément dans sa relation avec Christ. Car Christ est Dieu. Il y a un passage dans Apocalypse 13, verset 8, où il est question que des personnes qui ne sont pas inscrites dans le livre de l'agneau immolé. Cette formulation, elle implique que avant la fondation du monde, un agneau qui était immolé était déjà présent dans la pensée de Dieu. L'agneau immolé, on le sait, c'est Jésus-Christ crucifié. Le livre de nom est donc en fait le livre de nom de Jésus-Christ crucifié. Ainsi, avant que Dieu ne crée le monde, il avait la pensée de Jésus-Christ immolé. Il avait la pleine pensée qu'il allait racheter par son sang un peuple. Son peuple. Et en cela, on voit bien que Jésus est le but de la nouvelle alliance. Car cet agneau sera réellement l'élément central de notre louange éternelle. Apocalypse 5. Et il chantait un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux ». Car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. Par sa souffrance, par sa mort et sa résurrection, Jésus est devenu le fondement de toutes ses promesses. Mais en plus d'être le fondement, il est aussi devenu le but. Il est devenu le prix payé et le prix à gagner de la nouvelle alliance, la rédemption et la récompense. Oui, Dieu, Jésus est bel et bien à la fois le fondement et le but de l'accomplissement de la nouvelle alliance. Tout ça parce que Dieu veut nous voir avec nos péchés effacés. Et il veut nous voir en train de l'adorer pour la gloire de son nom. Quelque chose qui est assez fort avec ça, c'est que Jésus est venu sur terre et il est venu souffrir. Et ça, ces souffrances nous montrent en fait la beauté de sa grâce. C'est ça le but des souffrances dont Jésus a souffert. Et avec Michel, quand il nous a parlé de la création, de la providence de Dieu dans la création, nous avons vu qu'avant avant même la fondation du monde, le but dans la providence de Dieu était de se faire un peuple qui vive à la louange de la gloire, de sa grâce. Et Paul, dans Éphésiens 1, au verset 6, 12 et 14, à trois reprises, il va faire mention de ça. Donc, c'est vraiment à travers les souffrances que Dieu veut nous montrer la gloire de sa grâce. Notez que son but n'est pas juste de dire c'est la louange de sa gloire. C'est pas ça son but. Son but, c'est la louange de la gloire de sa grâce. Si Paul y fait référence à trois reprises, c'est pas pour rien, mais c'est pour insister que c'est bien la gloire de sa grâce qui est le but de nos louanges, afin qu'on le célèbre, qu'on célèbre la gloire de sa grâce. En fait, Dieu a déjà, depuis toute éternité, prévu le plan du salut, sa grâce, le fait qu'on est des pécheurs et qu'on a un salut qui nous est offert d'une manière totalement imméritée. Que, en fait, notre but est de louer sa grâce et de voir toute la gloire qu'il y a et de soulever ça et d'en faire nos louanges pour l'éternité. Quand j'étais petit et qu'on me parlait de louer Dieu pour l'éternité, je me disais, franchement, ça va être long. Il y a intérêt à avoir beaucoup de chants parce que ça va être très long. Mais mes amis, prenez juste une heure. D'accord ? Dans votre semaine, prenez une heure. Et méditez sur la grâce de Dieu. Méditez sur la gloire qui en découle. Prenez juste une heure. Faites l'exercice. Faites ça, méditez sur la gloire de Dieu, sur la puissance de sa grâce. Vous allez voir que ça a tellement d'impact, très pratique dans nos vies. La manière à quel point la grâce de Dieu découle dans tellement de domaines, y compris dans les plus grandes souffrances. Si on médite ça pendant juste une heure, vous allez voir que vous allez avoir des dizaines d'heures, des centaines d'heures juste pour pouvoir louer Dieu dans votre heure de méditation. Alors oui, l'éternité est bien le temps qu'il faut pour pouvoir louer Dieu et la grâce qu'il nous accorde. C'était le plan de Dieu depuis le commencement que Christ souffre pour des pécheurs indignes qui vont manifester la gloire de sa grâce. C'était pas le plan B de Dieu. Non. C'est le plan A, et ça demeure le plan A. Et il n'y aura pas d'autre plan par la suite, parce que c'est ce que Dieu veut. La croix n'a pas été une réflexion après coup, après Genèse 3, de dire « mince, qu'est-ce que je vais faire avec ces êtres humains ?» Non, ce n'est pas ça, c'était prévu depuis toute éternité. Elle faisait partie d'un plan avant même la fondation du monde. On voit ça dans 2 Timothée 1, verset 9, et dans Apocalypse 13, verset 8. La raison pour laquelle les souffrances de Christ existent est afin que Christ puisse manifester la grandeur de la gloire de sa grâce en souffrant lui-même pour vaincre notre souffrance. La souffrance du Fils de Dieu, absolument innocent et infiniment saint, à la place de pécheurs totalement indignes pour nous mener à une gloire, à une joie éternelle. Ça, c'est la plus grande manifestation qu'il soit ou qui puisse être de la gloire, de la grâce de Dieu. Je voudrais vous partager une petite pensée que j'ai eue cette semaine quand je faisais mon culte personnel. Je suis en train de lire 2 Corinthiens. Dans 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 5, il est dit « Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde en Christ. » Qu'est-ce qu'il est dit dans ce passage ? En fait, c'est que Christ a souffert. Et que si on souffre les mêmes souffrances que Christ, alors Christ peut nous apporter une consolation. Mes amis, il n'y a aucune souffrance que vous ne pouvez vivre que Christ n'a pas vécu. Si vous rejetez, si vous vivez l'abandon d'une amitié, de votre famille, ou du travail, ou d'une injustice, sachez que Jésus a vécu l'abandon, que Jésus a vécu l'injustice. Si vous souffrez d'une maladie ou autre souffrance physique, sachez que Jésus a aussi été malade, a aussi souffert des souffrances physiques. Alors, à combien plus forte raison Jésus peut vous apporter une consolation, vous dire « je comprends tes souffrances. Et je suis venu justement dans le monde pour réparer ces souffrances, pour porter tes souffrances. » Je trouve ça juste absolument magnifique et je voulais vous encourager avec ça. C'est une parenthèse hors du cours, mais que j'ai vécu cette semaine dans mon culte personnel. Je trouve ça tellement beau que, oui, Dieu a prévu la souffrance depuis toute éternité, mais il a aussi prévu Jésus-Christ qui vient pour nous consoler. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour nous. Piper, sur la question de pour quelle raison Christ devait souffrir et être immolé, c'est-à-dire être mis à mort, il dit ceci, « Parce que le but de Dieu dans la création et dans la providence est de produire la plus complète, la plus visible, la plus incontestable manifestation de la grandeur, de la gloire, de sa grâce. Cette manifestation sera la mise à mort du plus bel être dans l'univers, à la place de millions de pécheurs indignes. » Encore une fois, c'est tellement bien dit. Ok, ça va jusque-là ? Troisième point, l'entrée du péché et la gloire de l'Évangile. Piper pèse ses mots en disant que Dieu planifie de permettre la chute. C'est assez intéressant de creuser ça aussi. Et on vient de voir que Dieu avait déjà prévu que son Fils allait souffrir pour le salut de son peuple. Et ça, bien avant la fondation du monde. Cette réalité a des implications particulières, notamment celle que Dieu a de planifier, de permettre la chute. Dieu avait prévu qu'Adam et Ève pécheraient et amèneraient la ruine sur la création. Tout ça, il a intégré dans le conseil de sa volonté. Il en a considéré toutes les conséquences et ses propres objectifs. Il a choisi de permettre leur chute dans le péché. Il a fait tout ça en accord avec sa sagesse, sa justice et sa bienveillance parfaite. Il aurait pu choisir de ne pas permettre à Adam et Ève de pécher. Il a permis de ne pas permettre le péché d'Abimélech. Genèse 20, verset 6, il dit « Aussi, je t'ai-je empêché de pécher contre moi. » Mais Dieu, dans ses desseins sages, justes et bienveillants, il permet l'entrée du péché dans le monde. Si Dieu avait des desseins sages, justes et bienveillants en permettant la chute d'Adam et Ève, on peut parler du plan de Dieu dans sa permission. Dieu a permis. Dieu a planifié ou ordonné la chute. L'idée ici est que Dieu aurait pu choisir de ne pas permettre la chute, mais en choisissant de la permettre dans ses desseins sages, il a ainsi planifié et ordonné pour un but bien précis, qui est présent de toute éternité, à savoir la manifestation de la gloire, de sa grâce. Et tout ça en particulier dans les souffrances de Christ. De voir une gloire célébrée pour l'éternité dans des louanges satisfaisantes, des rachetés, de nous, avec nos vies transformées, de pouvoir le louer. Donc, dans son dessein sage, juste et bienveillant, Dieu a bien planifié de permettre la chute. Ok, mais Dieu n'est pas en train de se rendre coupable pour autant en faisant ça. Il y a bien des mystères concernant Dieu et l'entrée du péché dans le monde, mais peut-être une des réflexions qui se trouve dans Genèse 50, au verset 20 peut nous aider à comprendre ça avec l'histoire de Joseph et ses frères, où Joseph dit à ses frères, « Vous aviez projeté de me faire du mal, mais parce que vous avez fait, Dieu a projeté de faire du bien. » En fait, ici, il n'est pas en train de dire que Dieu a utilisé le mal que vous m'avez fait pour me faire du bien, mais il est plutôt en train de dire « Dieu a projeté de faire du bien. » C'est-à-dire, Dieu a permis toutes les souffrances et tout le mal que vous m'avez fait pour pouvoir l'utiliser en bien. Et quand on étudie l'histoire de Joseph, c'est absolument magnifique de voir comment Dieu savait qu'il allait avoir une famine, a mis Joseph en Égypte, lui a donné des songes, lui a donné la capacité de voir cette famine qui allait arriver, de pouvoir prendre conscience de ça et de faire des réserves en Égypte et de voir que en fait, sa famille peut bénéficier de toutes les réserves qu'il a fait. Et ça, c'est merveilleux. Et l'histoire de Joseph se termine en juste « Oh, waouh ! Qu'est-ce que Dieu fait ?» C'est juste incroyable. John Piper dit dans son livre « Dieu nous a donné ses paroles pour que nous saisissions au moins en partie comment cette providence se rapporte non seulement au péché des frères de Joseph, mais à tout péché, y compris le premier péché de l'homme. » Donc dans sa providence, Dieu a choisi la souffrance pour faire justice au mal. Dieu ordonne que certaines choses arrivent, et c'est des choses qu'il déteste. Dieu est le péché, cela le déshonore et ça détruit l'humanité. Et pourtant, il a planifié de permettre l'entrée du péché dans sa création parfaite. Ce que Dieu a instauré dans sa providence pour satisfaire sa justice est la souffrance comme la conséquence au mal, comme la conséquence au péché. À la femme, il va dire en Genèse 3, verset 16, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. » Et à l'homme, il dit « Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. » Donc, de la chute découlent toutes les souffrances que nous subissons à cause des offenses faites à Dieu. Les maladies, les deuils, les catastrophes naturelles, les difficultés liées au travail, tout ça découle de la chute. Ce sont des souffrances qui viennent de la chute. Mais comme nous l'avons vu, la souffrance fait partie intégrante de la providence de Dieu afin d'indiquer aux pécheurs le chemin ultime de sa grâce à travers la souffrance. D'autres références comme Genèse 3, verset 15, Colossiens 2, verset 15, Hébreux 2, verset 14, toutes ces références montrent ce point. J'avance un peu plus vite, je vois encore que le temps défile. C'est un sacré défi pour moi. Ok, mais tout ça montre la gloire de l'Évangile, nous montre en fait la gloire de sa grâce. Avec tout ça en tête, on peut comprendre pourquoi Paul dit que la bonne nouvelle annoncée par Christ dans la promulgation de la Nouvelle Alliance est la bonne nouvelle de sa gloire. Dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4, Paul déclare que le Dieu de ce siècle, Satan, a aveuglé l'intelligence des incrédules, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'Évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. C'est une phrase étonnante. L'Évangile de la gloire de Christ. C'est-à-dire, littéralement, si on doit transcrire ça littéralement, la bonne nouvelle de la gloire de Christ. Ce qui implique que la meilleure nouvelle de la bonne nouvelle, c'est la gloire de Christ. Et c'est ce que nous sommes appelés à refléter. Maintenant que nous sommes des nouvelles créatures, puisque la transformation du peuple de Dieu a été pensée de toute éternité par la sagesse de Dieu, acquise par le sang de Christ et orchestrée par l'Esprit de Dieu, il va de soi que la sanctification n'est pas un devoir humain, mais un dessein divin. Souvent, on pense que la sanctification, c'est les choses qu'on doit faire. La justification, c'est Christ qui fait, mais la sanctification, c'est les choses qu'on doit faire une fois qu'on soit justifié. Mais la sanctification fait partie de la providence de Dieu. La sanctification fait partie du dessein divin. En fait, Dieu, dans notre sanctification, veut refléter sa propre gloire. Il me semble que dans vos notes, je vous ai donné plein d'exemples. Rapidement, les exemples de la sanctification. Porter du fruit. Jean 15, verset 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Faire de bonnes œuvres. Que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Se comporter avec son corps, car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. Mangez, boire et tout le reste. Soit donc que vous mangez, soit donc que vous buvez, soit donc que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Etc. Tous les exemples. Tout est fait dans notre sanctification pour amener la gloire de Dieu. C'est-à-dire que dans l'Évangile, non seulement il y a la gloire de sa grâce dans la justification, mais aussi dans la sanctification. La sanctification est un processus qui, en fait, parviendra à sa perfection lors de la seconde venue du Seigneur Jésus. Chapitre 3, verset 2 dit « Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui. » Ainsi, Dieu remplira la nouvelle terre avec de belles images de la gloire de son Fils. Nous. Et la création elle-même sera aussi affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. C'est ainsi que la nouvelle alliance sera accomplie une fois pour toutes. Je trouve ça juste absolument magnifique comment Dieu, dans sa providence, dans son plan, dans son dessein éternel, prévoit l'entrée du péché, les conséquences du péché, à savoir la souffrance, qu'il envoie son Fils réparer justement les conséquences et souffrir les conséquences de notre péché pour pouvoir ainsi bâtir la nouvelle alliance. Et qu'on puisse, nous, être absolument pardonnés et retrouver la joie de Dieu en Dieu, et cela pour l'éternité. Ce message de la bonne nouvelle, il est pour tout le monde. Tout le monde peut saisir la beauté de l'Évangile. Petit, grand, peu importe l'âge social, peu importe le contexte multiculturel. Car oui, un jour, tous ensemble, on va louer Dieu pour la gloire de sa grâce. On va louer la gloire de sa grâce, la beauté de la grâce de Dieu. Et pour qu'il y ait ça, la grâce de Dieu, il y a dû avoir les conséquences du péché et le fait que Jésus vient réparer le péché en nous. Vous voyez un peu tout ça, l'instauration de la nouvelle alliance par Jésus. Vous voyez comment, à quel point c'est magnifique, à quel point la providence de Dieu englobe tout ça et amène, et comment Dieu amène, nous amène vers son but ultime de pouvoir l'adorer. Je termine juste avec ce que Piper voit comme la promesse la plus généreuse des Écritures, Éphésiens 2, versets 6 à 7. Dieu nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Voilà le but ultime de Dieu depuis le commencement. Dieu veut être connu. Dieu veut qu'on prenne plaisir en lui. Dieu veut être adoré pour qui il est vraiment, pour la grâce qu'il accomplit en Jésus, pour nous encore aujourd'hui. Pour ça, il accomplit ses promesses données aux enfants d'Israël en instaurant Jésus comme le fondement et le but de la nouvelle alliance, afin que des rachetés, comme vous et moi, puissent célébrer la gloire de sa grâce. Absolument magnifique. Si maintenant vous avez des questions, je peux en prendre quelques-unes. Encore une fois, je n'ai pas beaucoup de temps. Yes, Denis. Oui.
OK. Au niveau de l'entrée du péché, je suis surpris qu'il n'y ait pas été mentionné l'aspect de libre arbitre que le Seigneur voulait, qu'il ne voulait pas qu'on soit des automates. Tu n'as pas abordé cet élément-là, parce que dans sa providence, le Seigneur voulait que l'humain soit humain, et puis que sa volonté de l'aimer, de l'accepter, était libre à ce moment-là. T'sais, je comprends l'idée qui a permis la chute, mais il me semble dans sa providence, c'est important de mentionner que Dieu a voulu qu'on soit honnête avec lui dans son, et non pas des automates. On avait un libre arbitre de choisir ou pas. Pas si je m'exprime bien.
Oui, ouais, j'ai bien compris. Ouais, tout le monde a entendu la question, évidemment, il avait le micro. Je n'ai pas abordé ça parce que Piper ne l'aborde pas dans son livre. Moi, je me base essentiellement sur le livre de Piper. Et effectivement, c'était déjà une question de la semaine dernière, mais avec la question de la souveraineté de Dieu que Piper développe énormément, effectivement, Dieu n'est pas en train de jouer avec nous comme il joue avec des Playmobil, dans le sens où c'est lui qui nous bouge notre bras, etc. Dieu nous laisse un certain choix. Dieu nous a donné une conscience et de pouvoir faire le choix de ça. Un des mystères que je n'ai pas compris, c'est que Dieu est à la fois 100% souverain, donc ce que j'ai dit là, je le crois profondément, dans le sens où c'est Dieu qui a permis la chute, et c'est lui qui a tout orchestré ça, mais l'homme est aussi 100% responsable de ses choix. Donc, d'un certain côté, l'homme, quand il fait le choix de commettre le mal, ben, c'est ses conséquences. Et Dieu ne se rend pas coupable d'avoir permis le péché. C'était un peu mon point tout à l'heure aussi. Et le fait que Dieu soit 100% souverain et que l'homme soit 100% responsable, c'est, quand on creuse un peu les deux, c'est pas compatible en fait. Il faudrait presque, tu sais, dans un conflit, les torts sont partagés à 50-50 ou à 60-40. Mais c'est pas ça. C'est que Dieu est 100% souverain. Dans ce qu'il fait, dans ce qu'il dit, dans ce qu'il accomplit, dans ce qu'il permet, dans l'entrée du péché, Dieu est 100% souverain. Maintenant, ce que tu dis, il y a une bonne partie de vrai, ou je n'appellerais pas ça le laisser le libre arbitre, mais il y a cette notion de l'homme est responsable de ce qu'il fait. De s'il fait du bien, il est responsable des conséquences qui en suivent, souvent des bonnes responsables, des bonnes conséquences, mais aussi ce qu'il fait du mal. S'il fait du mal, il est vraiment coupable, lui, nous, moi, de mon péché. Je ne sais pas si ça répond à ta question, mais moi, je vois vraiment ça qui est assez un mystère, un peu. Piper développe ça dans son livre. C'est pour ça que je n'ai pas abordé ça dans cet angle de vue. Mais voilà. Est-ce que ça répond à ta question ou on peut rediscuter, Denis, avec grand, grand plaisir. Mais je sais que je suis bien conscient que la question de la souveraineté de Dieu, c'est un peu comme... Ça nous gratte, quoi. C'est pas hyper confortable, mais je pense que c'est quelque chose que la Bible enseigne et qu'on a besoin de voir comme quelque chose qui est beau et bon pour nous. Ouais, au fond, il y a toute une question. Par contre, je t'entends pas du tout. D'habitude, on demande les questions qui sont de ce côté-là, des pylônes. Donc, si tu veux bien t'approcher, je peux prendre ta question. Il y a un micro juste là. Merci.
Dans le temps du Pharaon, là, Moïse, tout ça, là. Maintenant, ça dit que Dieu il a endurci le cœur de Pharaon pour manifester sa gloire.
Oui.
À quatre parts, tu sais. Il y a quelque chose là-dedans, dans ça, que je vois un peu, là, tu sais.
Oui, oui, tout à fait.
Il n'est pas compatible, là. Mais à quatre parts, Dieu il a endurci le cœur de Pharaon pour que. Ils disent non à Moïse de laisser le peuple sortir pour que les plaies arrivent, tout ça, puis qu'à un moment donné, même jusqu'à temps qu'il perde son fils, puis tout ça, puis là, il dit OK, va-t'en, mais à un moment donné, il envoie son armée, puis son armée se fait engloutir par l'eau, en tout cas, pour manifester sa gloire pour les générations futures, peut-être, je sais pas, là. Je vois ça de même.
Oui. C'était pas une question, c'était une belle référence à ce qu'on a dit la semaine dernière. Autre question ? Je pense que c'est fini pour ce matin. Je suis disponible avant que le culte commence ou même après le culte. Si vous voulez discuter, ça me ferait plaisir. Voilà, merci beaucoup.